Travaux de Paul à Philippe, conversion du geôlier. Nous avons vu le commencement paisible et heureux de l'assemblée de Philippe. Les apôtres continuèrent à se rendre au lieu où l'on se réunissait afin d'y poursuivre l'œuvre de Dieu, et, sans doute, bien d'autres personnes, comme Lydie, furent amenées au Seigneur. L'épître de Paul aux Philippiens en nomme plusieurs. Mais l'ennemi ne peut voir des âmes sauvées sans chercher à s'opposer à la grâce du Seigneur. C'est ce qu'il fit bientôt à Philippe. Il se trouvait dans cette ville une pauvre fille esclave qui avait un esprit de python. On disait cela des personnes qui prétendaient avoir le don de deviner ou prédire l'avenir. Et ils étaient nombreux dans ce temps-là, comme, hélas, ils le sont de nos jours, quoique portant d'autres noms. Mais ce sont de misérables instruments de Satan, de même que ceux qui les écoutent sont des dupes. Le chrétien ne doit rien avoir à faire avec de telles pratiques. La servante dont nous parlons était réellement possédée d'un mauvais esprit, et ses maîtres se servaient de ses prétendues divinations pour se procurer un grand gain de la part de ceux qui venaient la consulter. Un jour que les serviteurs de Dieu se rendaient au lieu de la prière, cette pauvre fille les rencontra. Aussitôt l'esprit qui était en elle, reconnaissant dans les apôtres la puissance divine, fut obligé de le confesser par sa bouche. Elle se mit à les suivre en criant « Ces hommes sont les esclaves du Dieu Très-Haut qui vous annoncent la voie du salut. » Les démons, quand ils se trouvaient en présence de Jésus sur la terre, s'écriaient aussi « Tu es le Fils de Dieu ». Mais Jésus ne voulait pas de leur témoignage et leur fermait la bouche en les chassant du corps des possédés. Paul ne pouvait pas davantage accepter pour son ministère le témoignage d'un mauvais esprit. C'est pourquoi, l'ayant supporté durant plusieurs jours, affligé dans son cœur, il commanda à l'esprit, non point en son nom, mais au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette fille. À l'instant même, l'esprit sortit, et la pauvre servante fut délivrée. Telle est la puissance du nom de Jésus. Pour les maîtres de l'esclave, tout espoir de gain était perdu. C'était une cruelle déception pour leur avarice. Satan, qui avait cherché à se faire l'auxiliaire des apôtres et qui voyait sa ruse déjouée, se servit des mauvais sentiments des maîtres de l'esclave pour les exciter contre Paul et Silas. Irrité de la perte d'argent qu'ils faisaient, et voulant se venger, ils traînèrent les deux serviteurs de Dieu devant les magistrats qui siégeaient sur la place publique. Ils ne pouvaient les accuser d'avoir fait du bien à leurs esclaves. Ils eurent alors recours à la calomnie et au mensonge. « Ces hommes-ci, qui sont juifs, dirent-ils, mettent tout en trouble dans notre ville et annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de pratiquer, à nous qui sommes romains. » C'était une grave accusation, car les lois romaines punissaient sévèrement ceux qui cherchaient à introduire des religions nouvelles, et en disant que Paul et Silas étaient juifs, ils excitaient la haine que les païens avaient pour ce peuple méprisé. Aussi toute la foule qui entendait ces accusations se souleva-t-elle contre les apôtres, et les magistrats, voulant à tout prix la calmer, au lieu d'examiner la cause avec justice, commandèrent que Paul et Silas fussent battus de verges et jetés en prison. Ils s'inquiétaient peu des deux juifs étrangers. Ils firent arracher de dessus les apôtres leurs vêtements et leur firent appliquer sur la chair nue un grand nombre de coups, dont chacun laissait une trace sanglante. Puis, meurtris comme ils l'étaient, avec leurs habits déchirés, ils furent jetés en prison, et ordre fut donné au geôlier de les garder sûrement. Dans la prison, un nouveau supplice les attendait. Le geôlier ayant reçu un tel ordre ne pouvait qu'obéir à ses supérieurs. Il enferma donc les apôtres dans la prison intérieure, sans doute un obscur cachot, et fixa sûrement leurs pieds dans le bois. C'était une sorte de poutre double avec des ouvertures pour y passer chaque jambe, de manière à interdire tout mouvement. Quelle position pour les serviteurs de Dieu! Mais ce fut pour eux l'occasion de montrer comment triomphe la foi. Satan et les hommes avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir contre les serviteurs de Dieu. Mais ils ne peuvent toucher qu'au corps, et le Seigneur a dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. » Luc 12, verset 4. Paul et Silas le savaient. Dans ce sombre cachot où ils gisaient, une lumière céleste et divine remplissait leur cœur. Ils pensaient à celui qui les avait aimés et qui avait souffert bien plus qu'eux de la part des hommes, à celui qui, sur la croix, avait subi, pour les sauver, le jugement et la mort, et ils s'estimaient heureux de souffrir quelque chose pour lui. Ils élevaient leurs regards en haut, et comme Étienne, ils voyaient par la foi, dans la gloire, Jésus, le Fils de l'homme qui les aimait et les prendrait un jour avec lui. Aussi, bien loin d'être accablés, de se répandre en plainte, ils étaient remplis de l'amour et de la gloire de leur Sauveur, et goûtaient une paix profonde et un bonheur ineffable. Ce qui occupait leur âme se manifestait au dehors, vers minuit, au sein des ténèbres extérieures, dans ce lieu où habituellement ne se faisaient entendre que des gémissements et des blasphèmes, ces deux bienheureux chantaient les louanges de Dieu. Quelle victoire sur l'adversaire qui avait cru leur fermer la bouche! Leurs prières et leurs louanges devenaient un témoignage et une prédication. Les prisonniers les écoutaient. Quelle devait être leur surprise! Ainsi, Dieu était glorifié dans une sombre prison. La réponse à leurs prières et à leur confiance ne se fit pas attendre. Dieu, dans sa puissance, vint montrer ce qu'étaient pour son cœur ces deux pauvres prisonniers juifs. Soudain, il se fit un grand tremblement de terre. Les fondements de la prison, où l'on croyait les prisonniers bien en sûreté, furent ébranlés. Ces portes, solides et bien fermées avec leurs barres et leurs serrures, s'ouvrent. Les liens, les chaînes, les entraves qui serraient les membres des prisonniers sont brisées. Toute la puissance de l'homme est comme anéantie devant Dieu. Mais cette puissance divine allait aussi arracher à Satan un captif d'un autre genre. Le geôlier, éveillé en sursaut, accourut pour voir si tout était en ordre. Quelle dut être sa stupeur en voyant les portes ouvertes. Il ne douta pas un moment que tous les prisonniers ne se fussent enfuis, et, comme il répondait d'eux sur sa vie, dans son désespoir, il avait déjà tiré son épée pour se tuer. Mais Dieu n'avait pas ouvert les portes de la prison pour que les lois fussent violées. En déployant sa puissance, il avait d'autres desseins, des desseins de grâce. Lui-même avait retenu les prisonniers qui, voyant que Paul et Silas ne s'échappaient pas, les avaient sans doute imités. Au moment où le pauvre geôlier allait mettre fin à sa vie et se précipiter ainsi au devant du jugement de Dieu, la voix de la grâce qui veut sauver le pécheur et non le laisser périr se fit entendre. « Ne te fais point de mal, lui cria Paul, nous sommes tous ici. » Le geôlier, frappé de ces paroles si inattendues, demande de la lumière, s'élance dans le cachot où il avait jeté les serviteurs de Dieu et tombe à leurs pieds tout tremblant d'émotion et de crainte. Combien tout est changé! Dans quelle nouvelle lumière il les voit! Ce cachot n'est pas la place de ceux pour qui Dieu intervient ainsi. Il les mène dehors, mais il se voit aussi lui-même dans la lumière de Dieu. Il se sent coupable et perdu, et, de son cœur angoissé, s'échappe ce cri « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» La réponse ne se fait pas attendre. Cette même parole de grâce qui l'a empêché de se faire du mal va maintenant lui faire du bien et porter la paix dans son cœur. Les apôtres de l'Évangile lui répondent aussitôt « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Pour le geôlier, comme pour tous, c'est l'unique voie de salut. Le nom de Jésus est le seul qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. La lumière et la grâce divine étaient ainsi entrées dans cette triste demeure pour en faire une maison de joie. L'effort de Satan avait tourné contre lui. Il avait fait mettre les apôtres en prison pour les réduire au silence, mais là, des âmes avaient été sauvées. Quelle merveille de la puissance et de l'amour de Dieu! Les serviteurs du Seigneur, après leurs premières paroles de paix, continuèrent à annoncer la bonne nouvelle du salut au geôlier et à tous ceux qui étaient dans sa maison, que ces événements avaient sans doute attirés. Le geôlier avait cru, et sa foi se montra aussitôt par l'amour, comme cela avait été le cas pour Lydie. Il les prit en cette même heure de la nuit et lava leurs plaies. Après ce témoignage, lui et les siens furent baptisés. Un autre fruit de la foi se manifesta en lui. Pensant aux besoins de ceux qui maintenant étaient pour lui des frères bien-aimés, il les fit monter chez lui et leur dressa une table, son cœur et ceux des siens étant remplis de joie d'avoir été amenés à la connaissance de l'amour merveilleux de Dieu pour leur salut. Quelle heureuse nuit pour eux tous! Ils étaient passés des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Le jour étant venu, les magistrats pensèrent que le tumulte étant apaisé, ils pouvaient renvoyer ces hommes contre lesquels il n'y avait pas eu de jugement rendu. Ils envoyèrent donc au geôlier l'ordre de les relâcher, et le geôlier le transmit à Paul. Mais Paul, qui, pour lui-même, avait souffert l'injustice, ne pouvait pas, pour la gloire de l'Évangile, accepter d'être renvoyé en cachette comme un homme sans aveu. Il refusa donc de sortir de prison et demanda que les magistrats eux-mêmes vinssent les mettre en liberté, eux qui étaient romains, et que l'on n'aurait pas dû frapper et mettre en prison sans forme de jugement. Les magistrats furent effrayés en apprenant qu'ils avaient mis les mains sur des citoyens romains. Ils s'empressèrent d'apporter leurs excuses à Paul et à Silas et les firent sortir de prison, leur demandant, en même temps, comme une faveur, de quitter leur ville. Les apôtres agirent en toute liberté. Ils rentrèrent chez Lydie où ils logeaient, y rassemblèrent les frères et, les ayant exhortés et encouragés, partirent de Philippe pour continuer leur œuvre. Ainsi fut établie la première assemblée chrétienne en Europe, composée de quelques juifs, de prosélytes et de païens. Elle était dévouée au Seigneur et attachée à ses serviteurs qui avaient souffert pour lui annoncer l'Évangile. Nous voyons aussi par la lettre qu'il leur écrivit plus tard, étant en prison, combien Paul aimait ses chers Philippiens.